Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce mercredi, une équipe de scientifiques tchèques en route pour l'Antarctique. Terrorisme, le gouvernement compte maintenir le niveau de vigilance au moins jusqu'au printemps. Et puis du hockey sur glace, au mondial des moins de 20 ans, les Tchèques ont été battus par la Suisse 4-3. Une équipe de scientifiques tchèques, essentiellement de l'université Masaryk de Brno, s'est envolée ce mercredi en direction de l'Antarctique. Les 17 chercheurs se rendent à la station polaire de Mendel sur l'île James Ross, où des équipes tchèques se relaient régulièrement à cette période de l'année depuis 10 ans. L'objectif des scientifiques est de poursuivre les travaux qui sont menés sur la banquise ou sur le pergélisol, c'est-à-dire sur des sols gelés en permanence. Il s'agit également d'étudier les impacts du réchauffement climatique sur cette région du monde. Le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, a indiqué ce mardi dans un entretien à la télévision tchèque que le niveau 1 de vigilance face à la menace terroriste serait maintenu au moins jusqu'au printemps. Cette échelle de risque, créée par le gouvernement tchèque au mois de mars dernier en réaction aux attentats de Bruxelles, comporte au total 4 niveaux. Jusqu'au printemps, les patrouilles de policiers devraient donc se poursuivre dans les lieux jugés sensibles, dans les transports en commun, les lieux touristiques ou bien aux abords des centrales électriques. Le ministère des Transports a lancé un appel d'offres pour désigner l'organisme qui devra superviser l'achèvement de la construction de l'autoroute D4, laquelle doit relier Prague à la ville de Písek en Bohême du Sud. Il reste une portion de cette route à construire, un tronçon long de 32 km entre Příbram et Písek. Le chantier doit être réalisé sur la base d'un partenariat public-privé. Le ministère souhaite que ces travaux débutent en 2019. Le cours de la couronne tchèque durant l'année 2016 a été stable face à l'euro. Un euro s'échangeait contre 27 couronnes environ, un taux de change maintenu en l'état grâce à l'intervention monétaire menée par la Banque nationale tchèque depuis novembre 2013. En revanche, le cours de la couronne a faibli par rapport au dollar américain et au rouble. La Banque centrale tchèque prévoit de mettre fin à sa politique de dévaluation de la monnaie nationale à partir de la mi-2017. La couronne tchèque devrait ensuite se renforcer. Un alpiniste tchèque, âgé d'environ 20 ans, est décédé ce mercredi en Nouvelle-Zélande en tentant l'ascension du mont Aspiring dans le parc national du même nom. Selon des médias néo-zélandais, il a glissé et a été victime d'une chute de près de 300 mètres. Ce ressortissant tchèque, dont l'identité n'a pas été divulguée, était accompagné d'une Australienne qui a pu redescendre saine et sauve. La police cambodgienne a arrêté mardi 5 étrangers soupçonnés de fabrication illicite de stupéfiants. Selon le journal cambodgien Khmer Times, qui a rapporté l'information, une Tchèque figure parmi ces personnes arrêtées. Elles risquent la prison à vie si elles sont reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés. On passe au sport et au hockey sur glace. Après sa victoire contre la Finlande lors de son premier match du Mondial Junior 2017 qui se déroule à Montréal, l'équipe de République tchèque des moins de 20 ans a été battue mardi par la Suisse sur le score de 4-3. La jeune sélection helvétique est venue à bout de la représentation grâce à un but en prolongation. Jeudi, la sélection tchèque affrontera l'équipe du Danemark. On passe à la météo. Ce jeudi est marqué par le retour du soleil. Les températures sont en baisse. Elles vont de moins 1 à 3 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentait Pierre Ménian. Et merci de rester à notre écoute car notre programme continue en compagnie de Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Il y a 75 ans, dont la nuit du 28 au 29 décembre 1941, étaient parachutées sur le territoire tchèque trois équipes de soldats chargées d'organiser un attentat contre le protecteur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. C'était le début d'une des opérations les plus courageuses, peut-être, de la Deuxième Guerre mondiale. Radio Prague a assisté à une journée de souvenirs organisée à la mémoire des auteurs de l'attentat, Jan Kobe Kadesh et Josef Gabčík dans le village de Nehvězdy. La seconde partie de notre programme est consacrée aujourd'hui au bilan politique de l'année 2016. Pour résumer les principaux événements qui ont marqué la scène politique locale, nous avons invité au micro le politologue Michel Perotino. Très bonne écoute. Pour beaucoup en Tchéquie, c'est le plus grand acte de résistance de toute la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout juste 75 ans, dans la nuit du 28 au 29 décembre 1941, le bombardier britannique Henley Page Halifax larguait deux parachutistes tchécoslovaques, Jan Kubiš et Josef Gabčík, en pleine campagne tchèque près de la commune de Nehvězdy, non loin de Prague. Dans le cadre de l'opération militaire Anthropoïde, ils étaient chargés d'une mission quasi impossible, une mission suicide. Assassiner le plus haut dignitaire nazi du protectorat de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. Une mission accomplie 5 mois plus tard. L'histoire de ces deux parachutistes continue à marquer les Tchèques, en particulier les habitants de Nehvězdy. Chaque année, la petite ville leur rend hommage par une cérémonie du souvenir. Par un froid matin de décembre, au son de la cornemuse, les vétérans, les représentants de l'armée et de la commune de Nehvězdy ont déposé des couronnes de fleurs au pied du monument des parachutistes tchécoslovaques Gabčík et Kubiš. La musique traditionnelle écossaise rappelle que c'est justement en Écosse que les auteurs de l'attentat contre Reinhard Heydrich et leurs collègues ont suivi un entraînement pendant plusieurs semaines avant d'être parachutés sur le territoire du protectorat de Bohême-Moravie. Décoré de la Croix de guerre pour s'être battu en France, le Slovaque Josef Gabčík et le Tchèque Jan Kubiš sont donc désignés par le gouvernement tchèque en exil à Londres, les autorités britanniques et la résistance tchèque pour accomplir cet acte symbolique fort qu'est l'assassinat du chef de la Gestapo et l'organisateur principal de l'extermination des Juifs d'Europe. Au total, 3 équipes de soldats chargées d'organiser l'attentat sont larguées dans la nuit du 28 au 29 décembre 1941 sur le territoire du protectorat. Dušan Klavík est membre de la compagnie Nazdar. Réunissant aujourd'hui une 20aine d'amateurs de l'histoire, la compagnie ressuscite en quelque sorte le premier bataillon de légionnaires tchèques créé en France en 1914. Vêtu d'un uniforme d'époque, Dušan Klavík explique sur les lieux mêmes où les parachutistes ont été largués.
Les parachutistes portaient sous leur combinaison des vêtements civils, un pantalon, une veste, des chaussures de ville et même un chapeau. Ces vêtements ont été récupérés chez les immigrés tchèques en Grande-Bretagne, ou alors c'était des vêtements anglais recousus, desquels on avait ôté les étiquettes. Après le saut, les parachutistes devaient cacher leur combinaison et leur parachute. Ils avaient pour cela sur eux une petite pelle. Ces premiers parachutistes ont joué un rôle très important. Le gouvernement tchèque à Londres ne savait pas exactement quelle était la situation de la résistance tchèque. Il ne savait pas qui avait été arrêté par la Gestapo et qui continuait à collaborer. Les soldats parachutés en Bohême-Moravie, par exemple ceux du groupe Silver A, pouvaient donc fournir des informations nécessaires aux autorités tchèques en exil via des stations radiophoniques.
Soixante-quinze ans après le début de l'opération Anthropoïde, une 10aine de soldats munis de répliques des parachutes qui équipaient Kubiš et Gabčík ont atterri à proximité du terrain de football de Nehvězdy, Dušan Klavík.
Les parachutes modernes sont rectangulaires, mais surtout ils sont dirigeables. Les parachutes utilisés pendant la guerre avaient une forme ronde, ils étaient verts. La grande différence est que le parachutiste ne pouvait pas maîtriser le vol, il était porté par le vent sans savoir où il allait se poser.
« Nous savons aujourd'hui que pendant la guerre, les navigateurs s'orientaient surtout d'après les étoiles. Fin décembre 1941, la navigation était encore plus compliquée à cause de la neige qui recouvrait tout le territoire tchèque. Une erreur de navigation est alors survenue sans le savoir. Josef Gabčík et Jan Kubiš ont été parachutés à une vingtaine de kilomètres à l'est de Prague, alors qu'ils auraient dû atterrir près de Plzeň, dans l'ouest du pays. Nehvězdy est aujourd'hui une bourgade d'environ 2600 habitants. Parmi eux, on peut encore trouver les témoins des événements de décembre 1941 qui demeurent entourés de mystères. Miloš Rychl avait 15 ans à l'époque. Nous nous trouvons en sa compagnie près d'un second monument érigé à Nehvězdy à la mémoire des deux parachutistes. Il y a 10 ans, il a été installé au milieu des champs, à proximité de l'autoroute qui relie Prague et Hradec Králové, là où Gabčík et Kubiš ont probablement atterri.
Lorsque Kubiš et Gabčík ont été parachutés, ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Il paraît qu'ils se sont adressés au curé František Samek. Il leur aurait indiqué où se trouvait la gare la plus proche, celle de Mstětice, avant de prendre le train pour se rendre à Rokycany, en Bohême de l'Ouest. Ils se seraient cachés pendant un certain temps dans une grotte dont les rochers n'existent plus aujourd'hui. Ils auraient aussi caché leur matériel dans la cabane d'un jardinier, Monsieur Sedlacek, mais il faut savoir que ce ne sont que des hypothèses. Personne ne connaît la vérité. Personnellement, je connaissais bien le curé Samek. Jamais, à même après la guerre, il ne m'a confié avoir rencontré les parachutistes. Jamais.
Bohuslav Bubník était notre habitant de Nehvězdy dont la famille a été impliquée dans la résistance.
Mon père a rencontré les parachutistes à deux reprises, chez des amis, sans connaître leur identité et l'objectif de leur mission. On lui disait « ne cherche pas à savoir, c'est mieux ainsi ». Il leur apportait de la nourriture, il les aidait à contacter des gens. Mon père et un homme encore ont été peut-être les seules personnes ayant aidé les parachutistes à avoir échappé à la mort après avoir subi des interrogatoires et un emprisonnement à Pankrac.
Comme par miracle, la petite ville de Nehvězdy n'a pas connu le même sort que les villages de Legice et de Ležáky, complètement anéantis par les nazis dans le cadre des persécutions sanglantes qui ont suivi l'attentat contre Reinhard Heydrich accompli à Prague le 27 mai 1942. Presque 300 collaborateurs et proches de Josef Gabčík et Jan Kubiš, dont plusieurs habitants des villages voisins de Nehvězdy, ont été assassinés entre 1942 et 1944 dans le camp de concentration de Mauthausen. Le sort des 7 parachutistes tchécoslovaques ayant participé à l'opération Anthropoïde est suffisamment connu. Trahis par l'un des leurs, ils ont été découverts par les nazis cachés dans la crypte de l'église orthodoxe Saint-Cyril-et-Méthode au centre de Prague et assassinés.
What is your mission? Operation Anthropoid.
Leur courage et le drame qu'ils ont vécu continuent à interpeller, à inquiéter, à fasciner. À l'heure de la sortie sur les écrans du long-métrage « Anthropoïde » réalisé par le Britannique Sean Ellis, plusieurs ONG tchèques ont demandé des funérailles dignes pour les parachutistes tchécoslovaques dont les dépouilles se trouvent toujours dans un charnier à Prague, Diablice, où ils avaient été enterrés par leur assassin. Pour la première fois depuis 2002 et la fin du cabinet dirigé par Miloš Zeman, un gouvernement tchèque semble en mesure d'aller au bout de son mandat électoral. Intronisé en janvier 2014 et épargné depuis par les affaires, la coalition formée par le social-démocrate Bohuslav Sobotka avec le mouvement ANO de l'homme d'affaires Andrej Babiš et le parti chrétien-démocrate devrait rester stable et conduire la République tchèque jusqu'aux élections législatives prévues à l'automne prochain. Profitant d'une conjoncture économique favorable, ce gouvernement a continué, malgré les intérêts souvent divergents des formations qui le composent, de mener une politique très pragmatique tout au long de l'année écoulée. Maître de conférence à l'Institut d'études politiques de l'Université Charles à Prague, le politologue Michel Perotino dresse au micro de Guillaume Narguet un bilan politique de cette année 2016 en République tchèque. Un bilan volontairement consacré aux affaires intérieures.
Alors la situation générale est paradoxale par rapport à l'histoire qu'on a vécue jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a vraiment un gouvernement qui est stable, Même si, en fait, quand on regarde un petit peu sous les apparences, sous le premier abord, on se rend compte que la situation est un peu plus tendue, surtout quand on pense que s'approchent, en fait, les élections à venir. On se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup de tensions à l'intérieur du gouvernement et que ces tensions ont tendance à augmenter. Alors, si on revient sur l'année qui vient de passer, on se rend compte, en fait, que tout va bien. C'est-à-dire que le système marche relativement bien. Il n'y a pas de problème particulier à noter, même si, évidemment, quand on se penche sur des problèmes un peu plus spécifiques, comme par exemple la crise migratoire, comme le système électronique des caisses enregistreuses, on se rend compte qu'il y a pas mal de questions, de problèmes qui peuvent apparaître. Et puis, la grande question, en fait, qui a ajouté énormément d'huile sur le feu, c'est que certains éléments de la coalition gouvernementale ont commencé à gérer ou régler le problème Babiche, c'est-à-dire le problème de sa présence au gouvernement alors qu'il est un des principaux acteurs économiques dans le pays.
Vous touchez là du doigt donc cette fameuse loi censée empêcher
sur les conflits d'intérêts qui évidemment touche tout d'abord Babiche et surtout Babiche aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est évidemment une loi qui réagit ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire une situation qui jusqu'à présent n'avait pas vraiment soulevé de problèmes particuliers. On a toujours eu, par exemple, des ministres qui étaient économiquement très actifs, mais pas au niveau d'André Babiche, c'est-à-dire pas tant en quantité avec son holding agro-industriel Agrofert, un acteur économique qui prend une position clé, à savoir le ministère des Finances. Et par conséquent, en fait, il a accès notamment à toute une série d'informations que le citoyen lambda ou l'entrepreneur lambda n'a pas et ne peut pas avoir.
Visiblement, c'est toutefois quelque chose qui ne gêne pas plus que ça les Tchèques.
Alors non, ça ne gêne pas plus que ça en fait les Tchèques parce que d'une certaine manière c'est tout à fait en accord avec entre guillemets l'ère du temps, c'est-à-dire cette logique post-communiste qui a été soutenue en fait hein, par tous les gouvernements, notamment par l'ODS, où on mettait en exergue la légitimité particulièrement forte des entrepreneurs qui sont le pilier de l'économie, le pilier de la société tchèque post-communiste. Et Babiche, en quelque sorte, c'est l'expression ultime de l'entrepreneur qui réussit, qui est riche, qui est incorruptible, on présuppose en tout cas qu'il est incorruptible, et qui donc est d'autant plus fortement légitime pour gouverner. Donc ça, c'est un premier élément. Il s'inscrit tout à fait dans la logique sur le long terme, une logique qui est défendue et qui est acceptée par tout le monde. C'est-à-dire l'entrepreneur a vocation à entrer en politique, parce qu'il est tout particulièrement, capable de faire de la politique sans être mêlé à différents scandales, notamment de corruption. Donc il est incorruptible par nature. Évidemment, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça remet en fait en cause aussi les principes même de la démocratie telle qu'on les connaît depuis la fin du 19e siècle, où justement on a eu plutôt tendance dans le passé à écarter ce type d'acteur et à miser plutôt sur justement l'égalité, sur la liberté certes, mais au niveau politique, pas au niveau économique et politique. Babiche, en quelque sorte, il est le point ultime du développement post-communiste à la Tchèque.
Peut-on parler d'un gouvernement tchèque à deux têtes? Officiellement, le Premier ministre est Bohuslav Sobotka, mais André Babiche est pratiquement au même niveau et que ce sont ces deux hommes qui dirigent ce gouvernement.
André Babiche n'est pas que ministre des Finances, il est aussi vice-premier ministre. De ce point de vue-là, ça peut être tout à fait logique. À mon avis, il faut un petit peu recontextualiser aussi la situation. Bohuslav Sobotka, au sein du gouvernement, il, à mon sens en tout cas, il domine. Pas au sens où il domine la coalition, mais au sens où il fait son travail. Et si on va parler maintenant d'un gouvernement avec deux têtes ou avec deux chefs, effectivement, mais c'est plus une apparence, parce que Babiche est très actif, il est très actif notamment dans les médias, il est très présent dans les médias, il a un marketing politique qui est très, très développé, et effectivement, il donne son avis sur tout, il est capable, disons, d'être sur le devant de la scène, Mais après, quand on regarde quels sont les résultats, qui véritablement en fait, est capable d'avancer ses pions, en quelque sorte, on se rend compte que ce Sobotka n'est pas finalement aussi inexistant ou aussi secondaire qu'on pourrait l'avoir à l'esprit.
Comment Delors expliquer qu'il soit contesté à l'intérieur du Parti social-démocrate? Il a été remis en cause notamment suite aux élections automnales, régionales et sénatoriales, où la social-démocratie a réalisé de très faibles résultats. On a parfois l'impression que c'est un homme qui ne sait pas mettre en valeur son travail, ses résultats.
C'est un style, hein. C'est un style un petit peu particulier où effectivement on se met plutôt en arrière et on travaille plutôt dans les couloirs que sur le devant de la scène. Alors effectivement, Sobotka, en tant que chef du Parti social-démocrate, est souvent très critiqué, mais deux aspects. Premièrement, effectivement, objectivement, la social-démocratie est en difficulté. On peut l'expliquer par différents facteurs. Et de ce point de vue-là, Sobotka, en tant que chef du parti, il porte aussi sa part de responsabilité dans ce qui est pas un échec, mais disons une difficulté assez importante. Et deuxième aspect, quand vous recontextualisez la situation, notamment au sein du Parti social-démocrate, vous vous rendez compte que le Parti social-démocrate, comme tout parti social-démocrate en Europe, en fait, il fonctionne toujours avec différentes fractions, avec différents groupes, qui sont toujours en concurrence, voire en conflit. Et la social-démocratie tchèque n'évite pas cet écueil. C'est pas un groupe unique et uni, c'est toute une série de personnalités, toute une série de groupes qui entrent en concurrence, qui trouvent des points de compromis. Et évidemment, de ce point de vue-là, Sobotka, il a trouvé des appuis suffisamment importants pour pouvoir être chef du parti, mais il est toujours, d'une certaine manière, constamment remis en question, remis en cause par son propre parti. C'est une question de fonctionnement en fait, interne de la social-démocratie. Ça marche comme ça.
Pensez-vous malgré tout qu'il sera le candidat de la social-démocratie pour les élections l'année prochaine, ces élections législatives qui se tiendront à l'automne et qui seront le temps fort de l'année 2017? On commence déjà à évoquer le sujet et les partis actuellement au sein de la coalition vont tout mettre en œuvre pour que les lois qui soient adoptées le soit justement dans l'optique de ces législatives.
On est déjà évidemment dans une sorte de pré-campagne électorale. C'est tout à fait clair quand vous voyez notamment les relations entre la social-démocratie et Anno 2011, ou si vous préférez entre la social-démocratie et André Babiche. Vu d'aujourd'hui et vu de l'extérieur, personne n'est en mesure de mettre en cause le primat de Sobotka. Il y a toute une série de personnalités importantes au sein de la social-démocratie, mais personne n'est en mesure, on est en capacité d'imposer en fait une nouvelle ligne et d'imposer un nouveau leader. On va le voir au printemps, puisque la social-démocratie va avoir son congrès. A priori, Sobotka va rester en poste et ce jusque évidemment aux élections. Et a priori, je vois mal qui et pourquoi changer Sobotka, qui va pouvoir, disons, le concurrencer de telle manière à ce qu'il va prendre sa place. Je ne vois pas dans la série de leaders de la social-démocratie qui pourrait aujourd'hui remplir cette mission. Et notre question aussi qui reste en suspens, c'est la position du président et la future présidentielle aussi. C'est aussi ça qui est en jeu, y compris aujourd'hui.
Ce mercredi, Bohuslav Sobotka a fait le bilan de l'année écoulée. Il a parlé de stabilité politique et économique. Cette stabilité politique, on vient de l'évoquer. Pour ce qui est de l'économie, tous les feux sont au vert. Faible taux de chômage, croissance du PIB, qui fait quand même envie, même si elle n'est pas extraordinaire, elle fait envie certains pays. Investissement, tout va plus ou moins bien. Est-ce que vous pensez que c'est là le fruit du travail du gouvernement en place, ou alors c'est un gouvernement qui profite de la conjoncture actuelle?
C'est un long et large débat. A priori, je dirais plutôt que la situation tchèque, notamment économique, est telle qu'elle est, disons, influencée notamment par l'Allemagne, par l'Union européenne en général, et que quoi que fasse en quelque sorte le gouvernement, le résultat sera bon ou mauvais en fonction de ce qui se produit à l'extérieur plutôt qu'en fonction de ce qui se produit à l'intérieur. Alors, vous avez par exemple évidemment des grands groupes industriels notamment qui pourraient apparaître comme en quelque sorte indépendants ou autonomes. Je pense notamment à Škoda, mais Škoda, c'est Volkswagen. Enfin, c'est très très particulier. C'est notamment Škoda qui tire beaucoup l'économie tchèque. Donc le gouvernement, et on l'a vu dans le passé, hein, en 2006-2007, lorsqu'il n'y a pas eu de gouvernement en place, bah, l'économie, elle a continué sur sa lancée et il n'y a pas eu de problème particulier, ni à régler, ni réglé.
C'est sur ces propos du politologue Michel Perutino que s'achève cette émission préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir, à demain.